Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes faits maison, enregistrés à distance. Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui s'intéresse énormément aux coulisses du business de la bouffe. Bonjour Philibert.
Bonjour à tous, bonjour Daniel.
Alors Philibert, aujourd'hui notre invité est un journaliste dont je te parle il y a un moment et qui a attiré mon attention avec ses reportages d'un nouveau format, parfaitement imaginé pour une consommation sur portable. J'ai découvert son côté journalisme d'investigation plus tard, ainsi que son CV impressionnant dans les médias, Figaro, Fooding, Combini, Brut et maintenant Le Parisien. Nous sommes aujourd'hui avec Adrien González. Bonjour Adrien.
Bonjour Daniel, bonjour Philibert.
Alors Adrien, nous sommes ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. D'abord, on vient d'apprendre en fait que c'est la première fois que tu passes dans un podcast, donc c'est hyper intéressant. Et là, c'est un nouvel épisode de notre émission Fait Maison, une émission enregistrée à distance. Et un truc que tu sais pas, je pense, c'est que tu étais une source d'inspiration pour nous lors du confinement, notamment grâce à tes vidéos avec Rolly Belli et Antonin Bonnet qui nous ont inspirés ensuite à enregistrer des podcasts avec eux.
Ouais, j'ai un peu marqué, à vrai dire.
Bah, tant mieux. On n'a pas essayé de cacher, hein. On est très transparent. Et comme tu as compris, on aime beaucoup ton approche et on voudrait mieux connaître les coulisses de tes reportages dans ces podcasts. Mais avant d'y arriver, est-ce que tu pourrais te présenter?
Ok. Je suis journaliste. Je suis journaliste depuis 10 ans. Mon CV, vous voulez connaître?
Ouais, ton parcours, rapidement.
Mon parcours, je suis journaliste, j'ai fait mes classes au Figaro, où j'ai à peu près tout appris. Ouais. Et je suis parti du Figaro il y a 2 ans et demi, parce que j'étais attaché à ce média, qui est un très beau média, mais j'écrivais essentiellement sur la version papier du journal. Ça me manquait de me développer dans le plan digital, donc j'ai bossé pour Brut.
Ouais.
J'ai fait une super transition entre le plus grand média, le plus ancien média français, et le Figaro, le quotidien national en tout cas, et vers Brut, qui était à l'époque et toujours un média qui est extrêmement dynamique et innovant et dont tout le monde parlait à l'époque. J'y suis resté 5 mois pour monter une verticale, une rubrique qui s'appelait Brut Food, qui n'a pas si bien fonctionné que ça. Et quand je suis parti pour bosser pendant presque 1 an et demi, 2 ans. J'ai arrêté il n'y a pas très longtemps pour travailler pour le Fooding, ouais. Faire des vidéos de recettes toutes les semaines.
Et c'est les Tokera, c'est ça?
Les Tokera.
Tokera, ouais.
Contraction de Tok et de caméra. Ouais. Un format qui existe depuis très très longtemps et que j'ai repris. On est plusieurs super journalistes. Enfin, avant moi, il y a eu de super journalistes qui sont attelés à ce boulot-là, et donc j'étais un peu dans cette lignée-là, et voilà, j'ai repris le format, et là j'ai arrêté il y a un mois et demi, 2 mois,
ouais.
Pour vraiment m'occuper en ce moment, du coup, depuis février, de ces vidéos hebdomadaires que je produis pour Le Parisien, donc ça s'appelle Food Checking, ouais. Donc comme vous le disiez, c'est des formats de vidéos d'investigation, c'est un grand mot, mais on fait des petits reportages, voilà, qui durent 5 minutes en général, toutes les semaines, depuis fin février, avec une petite parenthèse quand même pendant le confinement. Du coup, on a sorti de notre chapeau un format différent qui consistait à faire des recettes avec des chefs en direct, enfin en tout cas avec l'illusion du direct, en Skype, en WhatsApp pour être exact, si on utilisait l'interface de WhatsApp pour ces vidéos.
On va revenir sur food checking, ça c'est un sujet important, ouais. Mais avant ça, vu qu'on était dans ton parcours, c'est une question rituelle dans le podcast, surtout le podcast traditionnel, pourquoi la bouffe? Parce que finalement, en effet, ça, même avant food checking, donc tu dis, t'as travaillé pour Combini Food, pourquoi la bouffe?
Non, j'ai pas bossé pour Combini Food, j'ai fait un stage l'an dernier chez Combini Techno, qui venait de se lancer à ce moment-là, donc je me suis intéressé. C'est d'ailleurs intéressant parce que c'est des sujets qui m'intéressent, la technologie en tant que journaliste,
ouais.
en tant que médium. Ça c'est une petite parenthèse peut-être. Pourquoi la bouffe? Et ben c'est par hasard, en tout cas professionnellement, c'est juste J'ai fait mes gammes de journaliste en stage à la mode au Figaro pendant 4 mois et j'ai ensuite bossé 4 mois à nouveau. J'ai prolongé mon stage pour bosser à la culture. Mmh. Et il se trouve que la culture s'était couplée avec le Figaroscope. Mmh. Et donc du coup j'étais amené à j'écrivais pas mal sur les bars, sur les clubs. J'étais un peu je sortais quoi pas mal à ce moment-là et du coup on m'a demandé. Il y a eu un moment où enfin j'ai dû écrire 2-3 petits papiers sur des restos comme ça de temps en temps et puis un jour il y a eu un petit appel d'air à la rédaction gastronomie. On m'a demandé si je pouvais venir filer un coup de main et donc j'ai en même temps que je finissais mes études, j'avais pas vraiment fini mais c'était sur le point de se terminer. J'ai commencé à bosser toutes les semaines. À la rédaction gastronomie du Figaro pour éditer la page gastronomie. Donc j'écris. Enfin, ma fonction n'était pas d'écrire, mais de relire les textes de mes camarades, parmi lesquels François Simon ou Emmanuel Rubin.
On connaît bien ici.
Derrière votre micro.
Ouais.
Et j'écrivais aussi de temps en temps des papiers. Et au même moment, on m'a demandé. Je bossais aussi pour une agence de presse qui s'appelle Relax News, et cette agence m'a demandé de qui sous-traite pour d'autres médias, notamment l'Express. Et donc moi, ils étaient en train de me tester depuis quelques mois sur des petits papiers web. Et au même moment, en fait, on m'a envoyé en reportage, mon premier reportage pour l'Express, des suppléments locaux, mm-hmm. à Annecy. Et donc j'ai interviewé Marc Vera au même moment où je commençais à bosser pour le Figaro.
D'accord.
Donc il y a une sorte de petite congruence comme ça. Et voilà. Professionnellement, en tout cas, c'est ça.
Et t'es resté dans la bouffe.
Tu es passionné de bouffe ou tu passes à côté de ça? Quelle est ta relation avec la bouffe?
Moi, je crois que j'ai du mal à dire oui. De fait, j'adore ça et je pense que ça occupe beaucoup de place dans ma vie. Mais je crois pas que je sois un foodie. J'ai tout appris. Enfin, j'ai vraiment. J'ai l'impression d'avoir tout appris de cet univers-là au Figaro. Par exemple, enfin. C'est assez flagrant au Figaro. Moi, j'ai pas grandi. Mes parents m'emmenaient pas dans des restos étoilés. Et Marc Vera, je savais pas qui c'était un mois avant de l'interviewer. Quoi. C'est ma mère qui m'a dit, c'est le monsieur avec le chapeau dans la pub. Je sais plus quelle marque de minéral.
Ouais.
Et donc du coup, j'ai vraiment compris au fil des mois et des années. J'ai vraiment compris cet univers-là, la gastronomie, et savoir comment. Qui se plaçait par rapport à qui d'autre, enfin comprendre un peu les galaxies comme ça, qui faisait ce monde-là. Ça, je l'ai appris en travaillant, quoi.
Et on a une question qui n'est pas du tout rituelle, mais qui a tout son sens avec toi aujourd'hui. C'est pourquoi la vidéo? Comment tu es arrivé dans ces formats-là?
Parce que il y a deux choses. Au Figaro, la dernière année où j'y étais, le Figaro avait beaucoup investi dans la vidéo. Avec la création de studio notamment au sein de la rédaction, toute une équipe qui avait été recrutée et moi j'avais très très envie d'apprendre d'autres choses et écrire des articles. J'avais l'impression d'avoir appris voilà cette chose là mais je sentais qu'il fallait que je me développe sur d'autres choses qui étaient peut-être plus porteuses, et le Figaro était en demande de main d'œuvre corvéable. Et donc je me suis porté volontaire un jour pour faire un live, un Facebook live, lors de l'inauguration, le lancement de Good France. Je crois que c'était mon premier live. C'était un cocktail dans l'Arc de Triomphe et c'était génial. J'ai adoré faire ça parce que du coup, j'étais accompagné d'un cadreur. J'étais pas tout seul. Il y avait un truc qui est pas forcément quelque chose qu'on retrouve dans mes vidéos aujourd'hui, mais c'était le côté... micro-trottoir. J'avais vraiment l'impression de me retrouver des années auparavant où j'étais stagiaire à la Dépêche du Midi. Il fallait aller voir les gens. Moi, c'est un truc qui est, pour beaucoup de journalistes, je pense, hein, c'est un truc qui n'est pas évident, juste d'aborder des gens comme ça, des inconnus, et de leur poser une question, de leur tendre un micro. Et il y a une adrénaline quand on fait ça que j'ai trouvé incroyable. Et aussi, ça me ramène un peu à ce que je fais aujourd'hui. Il y avait un truc génial, c'est qu'on parlait à des vrais gens, quoi. Dans cette vidéo-là, hein, qui a dû durer 3 quarts d'heure, j'ai dû aller tendre le micro à, je sais pas, 4-5 personnes. Et je leur demandais alors pourquoi vous êtes là, est-ce que vous aimez la cuisine française. Et il n'y avait pas de grille de lecture préétablie, il n'y avait pas de personne qui avait déjà préparé son discours pour ces éléments de langage, comme c'est souvent le cas quand on interviewe un chef. Mm-hmm. Et c'était super excitant. Et donc, du coup, j'ai fait plusieurs vidéos, enfin j'ai fait 2 lives comme ça, qui étaient un peu sur des événements. Et puis du coup, je me suis dit tiens, si on faisait un format. Donc j'ai lancé au Figaro un format qui a fait une petite série qui a fait de 5 épisodes sur les plats les plus spectaculaires. On avait appelé ça, c'était très bateau, mais les trois premières vidéos étaient en live, les autres étaient montées. Et c'était, le concept était assez marrant, c'était d'aller dans un resto. Tout était un peu prescripté, mais on allait dans un resto et on prenait un plat très emblématique, enfin pas très emblématique, mais vraiment spectaculaire. Et on essayait de mettre en avant le côté quelque chose qui est rarement traité et qui fait vraiment partie de l'ADN du Figaro, qui est le service.
Ouais.
Le travail du maître d'hôtel.
D'accord, le rituel, voilà. Le service en salle aussi. D'accord.
Et donc on a commencé, la première vidéo était vraiment incroyable, c'était qu'est-ce que c'est qu'une poularde en vessie au resto L'Épicure du Bristol, avec ce plat qui arrive comme un ballon de baudruche sur son sublime trépied là, qui en argent. Et donc on voyait comment le maître d'hôtel servait ce plat-là et le dressait à l'assiette de ses convives. Et c'était une petite série que j'avais un peu formatée comme ça, et donc je me suis mis à faire ça. Et la vidéo, ensuite, je suis parti chez Brut parce que c'était simplement, c'est un calcul vraiment très, c'est un vrai calcul en fait. C'est pas si à ce moment-là, je sais pas, si à ce moment-là ça avait été les podcasts qui étaient le média le plus en vogue, je me serais peut-être dit tiens, il faut que j'aille bosser dans une boîte de podcasts.
Ça c'est maintenant.
Ouais, enfin, je crois que la vidéo.
Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire sur la vidéo, mais c'est intéressant de voir que tu as eu un vrai coup de cœur pour la vidéo, une révélation pour ce format-là. Tu t'es senti à l'aise et maintenant c'est vraiment le format que tu travailles. Tu l'as fait chez Figaro, chez Brut et aujourd'hui au Parisien.
Ouais. Je vous écoute, non,
Et sur le fond, ce qui est intéressant, c'est ce que disait Daniel un petit peu en introduction. On a senti aussi que ta ligne a évolué et qu'aujourd'hui, tu es de plus en plus vers de l'enquête, vers quasiment du journalisme d'investigation. Alors évidemment, format plus court, adapté à la vidéo pour le mobile. Et justement, pourquoi cette évolution vers le journalisme d'investigation, donc notamment ce qu'on voit sur les séries Food Checking pour le Parisien?
Enfin, on en a déjà parlé en off. Pour moi, c'est pas de l'investigation. Ce que je fais, c'est de la. Enfin, c'est souvent d'ailleurs pour moi, le journalisme, c'est être capable de s'être un entonnoir. C'est quelque chose que j'ai appris au tout début. Enfin, en tout cas, que j'ai un peu conceptualisé dans ma tête en stage au Figaro. Au tout début, c'est être capable d'engranger un maximum d'informations et de leur donner une forme.
Ouais.
Et ce que je fais, c'est que je ne fais que donner une forme à des informations qui existent, qui sont là autour de moi. Que je vais parfois un peu chercher, un peu creuser, j'ai envie de dire plutôt que je fais du journalisme, pas du journalisme d'investigation. Je m'efforce en tout cas pour ces reportages du Parisien, par exemple, de faire un truc un peu bête, mais faudrait que je vous trouve une vidéo là. La toute première vidéo que j'ai faite sur les œufs, comment choisir ses œufs en fonction du mode d'élevage des poules, en batterie, en plein air, au sol ou bio. On a diffusé des images un peu difficiles d'une association Red Pill qui est allée voir comment sont élevés les œufs en cage.
Ouais.
Et j'ai fait quelque chose tout bête, c'est que j'ai demandé à la boîte qui vend ses œufs une réaction. Il se trouve que j'en ai pas eu, mais pour moi c'est quelque chose d'important, voilà, d'avoir tous les interlocuteurs sur un sujet, d'essayer d'avoir les pour et les contre et ensuite de pouvoir raconter cette histoire là avec un semblant d'objectivité.
Et justement,
si c'est Adrien, ça l'investigation, oui, mais je crois pas. C'est
le et justement, en fait, comme tu as fait référence, en préparant les podcasts, on a échangé et tu m'as dit un truc qui m'a marqué. Tu m'as dit, je suis plus innovant ou je me trouve beaucoup plus innovant sur la forme que sur le fond. Ouais. Il y a des gars qui vont beaucoup plus loin que moi dans l'investigation, etc. Donc, du coup, j'ai deux questions pour toi. D'abord, qu'est-ce que tu trouves innovant dans la forme, dans les formats que tu fais aujourd'hui et comment tu es arrivé là? Parce que je suppose que ça a été un processus pour arriver là.
Je m'envoie des fleurs, là, en fait, dans nos
coups. Bah, vas-y.
c'est le but. Il y en a que ça gêne beaucoup moins dans nos invités. T'inquiète pas. Vas-y.
Je confirme.
C'est le but.
Qu'est-ce que je trouve innovant? Première question.
Oui.
J'aimerais mieux que vous le disiez, vous. Mais non, ce qui est innovant, c'est simplement que j'ai jamais vu ça, en fait. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ce que je fais. Enfin, ce qui est intéressant dans le processus de fabrication d'une vidéo, j'en ai fait l'expérience au Fooding, la vidéo d'Antonin Bonnet dont vous parliez, que j'ai pas faite pour le Parisien, que j'ai faite pour le podcast À Poil de Julie Gerbet, Dans tous les cas, en fait, il y a une part de, il y a toujours des inspirations sur les vidéos du fooding. Je suis parti du point de départ et du contrat de visionnage qui consistait à dire c'est le chef qui se filme tout seul dans sa cuisine. Je suis complètement absent du tournage. On ne doit pas avoir l'impression, alors que c'est le cas, que je suis présent lorsque c'est tourné. Et donc je suis parti de ce principe-là. Et à partir de là, je me suis dit qu'est-ce qui marche aujourd'hui sur les réseaux sociaux en termes de vidéos de recettes. Bah, c'est tout con, c'est les chefs clubs, c'est Tasty. Voilà. Et en fait, j'ai pris ce que faisait déjà le fooding et j'y ai injecté des éléments qui sont plutôt propres à ces médias-là, en faisant une sorte d'hybride qui ressemble pas à Chef Club et à Tasty, mais avec des éléments, notamment en termes de rythme, en termes de cadrage, en termes d'effet aussi, où le fameux claquement de doigts, où tout d'un coup, votre oignon, il est entier. Bah ça, c'est des trucs tout bêtes, mais que j'ai pas inventé, je les ai juste pris ailleurs.
C'est pour ça qu'on a voulu t'avoir dans ce podcast. C'est ça qui nous plaît dans ces vidéos, qui sont des formats de 5 minutes, c'est que on ne peut pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'il y a du rythme quand t'as commencé à la regarder, tu vas au bout. Après, t'abordes des sujets qui sont aussi très intéressants. Évidemment, le vrai journaliste d'investigation, on y reviendra peut-être qu'il ira un peu plus loin, mais c'est sur des formats d'une heure et demie. Et je trouve que toi, en 5 minutes, t'abordes des sujets intéressants, tu sensibilises les gens. Et je pense qu'en effet, c'est le traitement, c'est le rythme. D'ailleurs, c'est toi qui les montres, les vidéos? Je me posais la question.
Ouais. Je suis vraiment un orchestre. Du coup, je fais le... J'écris.
Tu filmes, t'écris.
Je filme, je monte et je... Il y a des petits... Il y a eu... Enfin, le logo final, le générique, c'est un motion designer qui s'en est chargé. J'ai un autre motion designer qui m'a fait une sorte de template pour les animations de synthé. Quand on voyait le nom de quelqu'un qui s'affiche, ben ça a été fait une fois et maintenant je joue avec. Il y a des petites animations comme ça, c'est pas du tout mon job et je suis pas fort du tout là-dedans, mais parfois, enfin, c'est vraiment de la débrouille. Il y a des tutos YouTube souvent pour se débrouiller pour arriver à faire ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai dans ma tête. Mais c'est aussi très, pour le coup, c'est très lofi, hein, comme format. Il y a peu de motion design dans l'ensemble. C'est très proche, en fait, de ce que n'importe qui pourrait faire. Ça, c'est important.
Et on parlait de journaliste d'investigation tout à l'heure. Donc, pour toi, c'est pas complètement du journaliste d'investigation parce que tu passes peut-être moins de temps à aller chercher les informations, même si tu les mets en forme et ça rappelle le journaliste d'investigation. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'inspire, qui t'intéresse? Est-ce que demain, t'aimerais évoluer vers le journaliste d'investigation? Quels sont tes mentors dans ce domaine-là? Enfin, si t'en as, si ça t'intéresse. Ouais. Non, bon, bah,
pour moi, il y en a pas. En fait, c'est bête, mais c'est vraiment. C'est du calcul pour moi. De faire de la vidéo, moi, ça m'est. Mais au début, je savais pas que ça allait me plaire à ce point. Qu'est-ce qui m'intéresse? Non, c'est l'idée du journalisme, c'est l'idée de. Ouais, par exemple. Là, j'ai passé du coup un peu plus d'un an et demi à passer 2 heures dans les cuisines des restos chaque semaine et 2 ou 3 jours à monter ces recettes pour le fooding. J'ai adoré, mais je faisais pas du journalisme. C'était vraiment top. Et ça m'a permis d'expérimenter plein de choses sur la forme. Quand j'ai commencé à bosser pour Le Parisien, à retourner à faire du journalisme, c'était une bouffée d'air frais, c'était incroyable. D'une excitation d'enquêter, en fait. Ouais, il y a ça de... Quelqu'un me dit quelque chose. Ah tiens, est-ce que c'est vrai? Que pense telle autre personne? Et de confronter les points de vue et d'essayer d'y voir plus clair sur une situation, c'est super excitant. Et ensuite, quand je parlais de mettre en forme, c'est ça. C'est comment quand on a une immensité d'informations qui peuvent se contredire, qui sont pas toujours très cohérentes, qui viennent de sources diverses. Bah, c'est comment à partir de là, t'arrives à donner une forme, que ce soit un article. Une vidéo, du coup, en l'occurrence, qui fasse que, bah, comme vous le dites, et ça me fait plaisir, quand tu commences à regarder, tu regardes jusqu'au bout, ou quand tu commences à lire, tu vas lire jusqu'au bout. Mais l'investigation, en tant que telle, en fait, non, à vrai dire, ça m'intéresserait pas de faire des, c'est pas ça que je vais chercher, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, d'ailleurs, on en parlait en off, c'est que ce que je fasse, ça ait un impact. Et en fait, peu importe la forme, je veux juste que le travail que je vais produire, il résonne avec les gens. Et je trouve que ce que je fais aujourd'hui, je crois que ce que je fais aujourd'hui pour Le Parisien, ça résonne beaucoup plus, par exemple. et ça me procure donc une plus grande satisfaction que certains articles que j'ai pu faire pour le Figaro, qui a un lectorat, enfin le Figaro papier en plus, qui a un lectorat plus restreint et plus élitiste aussi, puisque au Figaro, on parle de, je caricature, mais on parle, Figaro quotidien, le papier, on parle de grandes tables et de chefs étoilés. Ça concerne peu de monde.
Et Adrien, on revient donc sur sur Food Checking, donc la série que tu produis pour les Parisiens. Et c'est qu'intéressant. D'abord, moi je trouve c'est que vu que le format il est innovant et il est engageant, tu sensibilises quand même si tu vas si c'est des vidéos courtes, hein, tu sensibilises les gens à des sujets qui sont très importants dans la bouffe. Tu as récemment parlé du café en capsule, les jambons sans nitrite, les baguettes blanches, les fraises d'Espagne, etc. Et en fait, nous, ce qu'on aimerait faire, un petit jeu avec toi, que tu puisses partager avec nos auditeurs, c'est que tu as appris lors de ces reportages. Et toi, au début de chaque reportage, tu te poses des questions. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce que tu as appris à chaque fois sur chaque reportage. Tu es prêt? On peut faire ces petits jeux avec toi?
Il faut que je réponde du tac au tac, c'est ça?
Le plus vite possible, on fait des réponses courtes, des choses qui t'ont marqué les plus lors de ces reportages.
Okay. Tu connais les sujets par cœur, c'est ça qui est bien.
Ouais, j'espère.
On va voir.
On y va. Est-ce qu'il faut-il encore acheter des fraises espagnoles?
Merde, je suis incapable de répondre du tac au tac. Moi, il me faut des explications.
Vas-y.
Merde. A priori, non. Des fraises espagnoles, quand tu te trouves en Espagne et que tu as un bon petit producteur à côté de chez toi, c'est cool. Mais il se trouve que statistiquement, ce que nous, on trouve en tant que Français sur nos étals de supermarché, puisque c'est mon terrain de jeu avec ces vidéos, c'est le supermarché, de fait, la qualité est moins bonne, même si le prix est beaucoup, beaucoup, bien, bien inférieur à celui des fraises françaises. Peut-être qu'il vaut mieux quand même s'en tenir aux françaises.
Faut-il arrêter de manger de l'avocat?
Là, j'avoue, la conclusion de ma vidéo, très diplomate, elle dit qu'il vaut mieux diminuer sa consommation, il vaut mieux la restreindre au moment où c'est la saison, c'est-à-dire quand on est en France, c'est plutôt l'hiver, et dans les pays les plus proches, à savoir Espagne, Israël, Maroc, Sicile et Corse, puisqu'on a une petite production en Corse. Moi, à titre personnel, j'évite en fait l'avocat.
Les dosettes des cafés sont-elles mauvaises pour la planète?
Et là aussi, c'est compliqué, c'est pas une réponse simple. Et c'est ça qui est intéressant avec ces vidéos, ça permet un peu de mettre un peu de nuance dans les idées reçues qu'on a. Alors, les dosettes en alu, notamment les dosettes de Nespresso, elles polluent beaucoup. Pour les produire, c'est une source, ça consomme beaucoup d'énergie, c'est une source de pollution. C'est pas top. Les dosettes compostables, elles ont le mérite d'exister. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de filière pour les trier. En tout cas, pas encore. À ce stade, on navigue un peu entre les deux. Peut-être que pour le moment, en attendant qu'il y ait des filières efficaces, que ce soit pour l'alu ou pour les biodéchets, peut-être qu'il vaut mieux acheter son café en vrac.
Faut-il arrêter de manger du jambon rose?
C'est pareil, c'est compliqué.
Ouais, ouais.
On a fait cette dégustation incroyable avec Yves Candebord, où je lui fais goûter 3 jambons avec nitrite et 2 jambons sans nitrite, tous, encore une fois, qui sont vendus en supermarché. Et à l'aveugle, il m'a classé les 3 jambons avec nitrite en numéro 1. Donc les jambons sans nitrite arrivent en dernière position pour lui. C'était même pas du jambon, si je me souviens bien ses commentaires. Ça ressemblait à de la dinde. Là, pareil, c'est compliqué. Il y a juste un message qu'on peut envoyer aux industriels qui produisent ces jambons sans nitrite. C'est est-ce que vous pourriez faire du jambon sans nitrite qui ressemble un peu plus à du jambon avec nitrite?
Voilà.
Au niveau du goût.
Et de réduire au maximum le nitrite, en effet, ouais. Mais tout en préservant le goût.
Mais là, c'est vraiment. On entre dans ces dégustations que je fais à chaque fois en dernière séquence des reportages. On entre vraiment sur la question de quels sont, et là en l'occurrence c'était très fort, sur quelles sont nos habitudes alimentaires, quelles sont dans notre tête, qu'est-ce qui a le goût du jambon, je le dis en conclusion. Parce que le test que fait Yves Candebord, sa conclusion, c'est incroyable parce que ça, peut-être que ce que ça révèle le plus, c'est que pour nous, Français, le goût du jambon, c'est pas le goût du jambon, c'est le goût du jambon nitrité. Cette conception-là, elle est culturelle, c'est le fruit de dizaines d'années de consommation de jambon nitrité. Et donc, quand on mange quelque chose qui est sans nitrite, ben, on n'a pas l'impression de manger du genre.
Mais c'est justement ce que tu dis qui est très difficile dans ces questions-là, c'est qu'il n'y a pas de réponse, en fait. Ce n'est pas noir sur blanc. Il n'y a pas oui et non. Et nous, on se rend compte hein, avec nos invités lors du podcast, on apprend énormément des choses sur différentes thématiques. Et c'est très difficile de trancher, de dire oui ou non. Parfois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est là où on voit tout l'intérêt de ta démarche, en fait, de sensibiliser les gens à ces sujets-là.
C'est là un peu, je me tire presque une balle d'un pied en vous racontant l'histoire du jambon, parce que la vocation de ces vidéos, c'est aussi de sensibiliser, certes, mais ce qu'on garde toujours, toujours en tête, c'est quelle est la solution au problème.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que sur la question de l'avocat, par exemple, moi, à titre personnel, j'en achète pas. Ou j'ai fait une vidéo sur l'ananas, j'en achète pas. Mais c'est pas une solution que de bannir à grande échelle, c'est pas une solution que de dire arrêtez tout. Sinon ça devient. Enfin, c'est bien dans certaines initiatives. Pour parler des fraises, le restaurant Fief de Victor Mercier, c'est très très intéressant. Mais si on raisonne à l'échelle d'un pays, de la consommation d'une population, on peut pas dire aux gens stop quoi. On peut pas dire aux consommateurs, on peut pas dire aux producteurs, à toutes les filières, à toute l'économie qui est derrière, stop. Il faut arrêter tout. En revanche, on essaie de proposer des solutions. Ça c'est vraiment notre s'efforce de faire à chaque fois. C'est pas toujours facile.
C'est clair. Bah nous il y a un cas qui nous revient à chaque fois, Philippe et moi, quand on en parle, on a interviewé les fondateurs de Terroir d'Avenir, en fait, et à un moment donné on parle de l'ananas parce que eux ils vendaient pas de l'ananas, et à un moment donné ils décident d'en vendre et ils nous expliquent que c'est une discussion qui a duré une année au sein de la boîte pour décider s'ils devraient vendre ou pas, et voilà, ce sont des sujets très complexes, et c'est pour ça que on trouve hyper intéressant des démarches comme la tienne qui essayent de donner un peu plus de visibilité sur tout ça. Dernière question avant d'avancer sur la trame, les sucres blancs, est-il vraiment mauvais pour la santé?
Alors là, pour le coup, j'ai une réponse très claire, c'est que non. Et c'est simple. Alors j'ai eu des commentaires des gens qui ne comprenaient pas, mais c'est évident, et c'est une nutritionniste, Ariane Grimbach, qui éclaire vraiment le sujet. C'est que de toute façon, quelle que soit la quantité de sucre, à quantité égale de sucre, que ce soit du sucre blanc de betterave ou du sucre roux de canne, la quantité de nutriments en plus qu'on trouve dans le sucre de canne est si infime que ça n'apportera rien à votre organisme. Ça fera une différence si vous consommez, je sais pas, des kilos et des kilos et des kilos de sucre par semaine, peut-être. Là, oui, proportionnellement, vous aurez eu un peu plus de nutriments en consommant du sucre de canne. Mais de toute façon, il ne faut pas consommer beaucoup de sucre, donc ça ne changera rien. Le vrai problème, il y a beaucoup de gens qui ont réagi par rapport à ça et ils ont raison. Le vrai problème sur le sucre, c'est pas le sucre, c'est pas le sucre lui-même, c'est le sucre qu'on trouve dans les produits transformés.
Bien sûr.
Qui est beaucoup trop présent.
Si on parle maintenant un peu des résultats, parce qu'en lisant certains commentaires sur les réseaux sociaux, on a appris que, par exemple, ta vidéo Oli Belli, qui nous a en effet inspiré un épisode, a battu tous les records, a eu plus de 6 millions de vues et je crois quasiment 46 000 partages. Donc je crois que c'était un record sur la page Facebook du Parisien. Ou sinon la vidéo avec le chef Antonin Bonnet que tu as produit pour le podcast À Poil, qu'on salue d'ailleurs en passant, qui a fait plus de 500 000 vues. Donc ça marche fort. Quelles sont pour toi les raisons justement de ce succès, de ces formats et de ces vidéos? De ces vidéos?
Alors, c'était 500 000 vues à l'époque, hein, il y a un petit moment, mais là, on a passé, je crois, à vérifier, hein, mais c'est plus d'un million, voire même 2 millions, je crois.
La vidéo d'Antonin Bonnet.
Ouais, d'Antonin Bonnet, c'est vraiment incroyable.
Ouais, c'est
bravo.
C'est vraiment ça qui nous a marqué, c'est que c'est l'impact, et tu cherchais de l'impact, donc là, tu as de l'impact, c'est extraordinaire. 6 millions de vues pour la vidéo de Libelli, 2 millions, tu dis, pour la vidéo sur Antonin Bonnet, c'est incroyable. Comment tu l'analyses, ça, justement? Quelles sont les raisons pour toi de ce succès?
Déjà, Antonin Bonnet, c'est aussi un personnage incroyable. Le Oli Belli, c'est des gens humainement et des personnages aussi qui sont incroyables. C'est pas qu'en vidéo d'ailleurs, mais en tout cas beaucoup plus en vidéo ou en, j'imagine, en radio, en podcast que en presse écrite. L'importance de l'incarnation de votre sujet, elle est essentielle. Quand on a fait la vidéo avec Antonin Bonnet, franchement, on ne pensait pas que, j'ai les chiffres sous les yeux, c'est 2,2 millions de vues.
2,2
millions. On ne pensait pas que ça... Enfin, j'avais aucune idée quoi, de ce carton. En revanche, Antonin a été C'est incroyable. Enfin, je peux vous donner le making-of. Hein. C'est tout simple. On a passé 10 minutes, je pense, d'interview. Et dans ces 10 minutes, il a eu peut-être 4 minutes à tout péter d'une sortie sur pourquoi il ne faut pas acheter son poulet pas cher. Et en fait, cette vidéo-là qui dure du coup finalement 1 minute 51, c'est juste cette tirade. J'ai juste coupé les blancs et j'ai un peu animé, j'ai mis de la musique. Mais je suis. Mon seul mérite, c'est d'avoir identifié le moment super fort, ce moment où il a eu cette tirade, et ensuite de le mettre en image. Quand Oli Belli fait plus de 6 millions de vues, 6,5 millions, je crois, sur la page Facebook du Parisien, c'est aussi parce que c'est des mécaniques un peu, comment dire, un peu. Quand on fait une vidéo, on joue sur l'émotion. Il faut l'assumer. Enfin, moi, je l'assume, en tout cas. Et quand, de fait, la vidéo d'Oli Belli, elle commence avec Sarah Mouchot, la patronne d'Oli Belli, qui pleure et qui est dévastée parce qu'elle a peur de devoir jeter une tonne de nourriture à la poubelle. Et ça tient aussi à ça. Ça tient à ses premières secondes, j'imagine. Et au fait qu'elle fait pas semblant, quoi. Elle est vraie quand elle dit ça, et les gens l'ont senti, j'imagine. Donc ouais, c'est comme ça que j'explique.
Et Adrien, on arrive à la fin du podcast. On aime bien connaître un peu les plans de nos invités par la suite, en fait, comment ils voient les prochaines étapes. Toi, tu nous as expliqué qu'en fait, ta carrière, c'était quand même calculé. Hein, l'intérêt par la vidéo et certains changements que tu as fait dans ta carrière, c'était calculé. Là, les podcasts, tu as mentionné les podcasts. Est-ce que, par exemple, c'est un format qui t'intéresse? Aujourd'hui, tu es très attaché à la vidéo. Quels sont tes plans pour la suite? Comment tu vois l'évolution de ta carrière?
Moi, je pense, pour préciser quelque chose que j'ai dit plus tôt, là, en fait, la vidéo, ça, moi, ce qui me satisfait, c'est cet impact que peut avoir la vidéo. Et moi, quand je vois que il y a 2,2 millions de vues sur cette vidéo d'Antonin Bonnet. Je trouve que j'ai rempli ma mission de journaliste, quoi. Et donc, aujourd'hui, je crois que ce sont ces formats qui sont, ces formats vidéo sur les réseaux sociaux qui sont les plus, qui résonnent le plus avec les gens. C'est dû à plein de choses, mais faut avoir conscience, tout le monde, que tout ça, ça n'est que temporaire, que un jour, il y a un changement d'algorithme, un jour, il y a un nouveau médium qui apparaît. Et pour le moment, je crois qu'il y a encore plein de choses à faire en vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses que je n'ai pas encore expérimenté, mais vous voyez, la semaine dernière, Instagram a sorti une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Reels, mm-hmm. qui est complète sur TikTok. Je suis curieux de voir ce qu'on va pouvoir inventer avec ça. Si Instagram développe une nouvelle manière de faire des vidéos, ça veut dire que la vidéo, y a encore plein de choses à faire avec. Pour vous répondre sur les podcasts, je trouve ça très très intéressant. Moi, j'ai commencé à écouter des podcasts, il y a plus de 3 ans, un peu plus de 3 ans, je crois. Au moment où j'étais aux États-Unis, et tout le monde me disait qu'ils écoutaient des podcasts autour de moi, et donc je me suis mis à en écouter. Ce que je trouve incroyable, d'ailleurs, tiens, c'est l'occasion de faire un clin d'œil et d'être un peu corporate, mais au Parisien, il y a un podcast qui s'appelle Code Source, qui est génial, et parce que c'est des histoires qui sont racontées. Et ça, c'est quelque chose que je crois le journalisme français a oublié, si jamais il l'a déjà pratiqué, de raconter des histoires, d'emmener les gens quelque part. Et ça, je le retrouve beaucoup dans les podcasts. Le podcast, vous avez sans doute entendu, de Zazie Tavitian sur sa grand-mère. C'est incroyable parce que elle fait quelque chose, ouais, que moi je trouve inspirant pour mes propres vidéos d'ailleurs, dans ce podcast. C'est qu'elle elle incarne son histoire, comme je le fais, et elle va emmener les gens, elle va conduire les gens aux quatre coins, dans le 16e arrondissement, en Israël, dans différents endroits. Elle va les amener rencontrer plusieurs personnes. Et c'est ce que je fais, moi, dans mes vidéos. Et elle nous emmène dans une histoire. Quand vous parliez de rythme et de on commence, on n'arrive pas à s'arrêter, c'est aussi ça le journalisme, c'est arriver à tenir les gens en leur racontant une histoire. Donc que ce soit le podcast ou la vidéo, c'est des choses moi qui m'intéressent beaucoup et qu'il faudrait arriver à qu'on soit plus fort encore que ça en France aujourd'hui, qu'on soit meilleur. les journalistes.
Adrien, on a, pour terminer les podcasts, nous avons une question rituelle chez Business of Bouffe. On demande à nos invités de partager des bons plans bouffe avec nos auditeurs. Est-ce que tu as des bons plans bouffe à partager, soit des restos que tu as testés récemment, ou soit des livres, tu as parlé des podcasts, des films, des documentaires, des choses que tu aimerais partager avec nos auditeurs?
J'aimerais être plus précis là, mais je viens juste de tourner une séquence de dégustation de spaghetti à Grand Control, depuis l'endroit depuis lequel je vous appelle, et j'étais avec Ricardo qui est le patron et le chef de Solina à Grand Control. Ils vont rouvrir du coup après le confinement leur stand de pâtes ces jours-ci, donc je pense que c'est une bonne petite adresse. Et juste à côté, il y a le stand, la résidence du Refugee Food Festival. J'ai discuté avec lui, qui est un des deux patrons, et il me disait qu'il est juste, du coup, il lançait, ils sont en train de mettre en place la nouvelle carte et le nouveau chef, qui est mauritanien. Et donc, on va peut-être avoir l'occasion de déguster une nouvelle cuisine dans ce stand, puisque c'est la première fois, du coup, que ce chef-là va cuisiner pour la résidence du Refugee Food Festival. Donc, deux bons plans, à Grand Control.
Ben super, Adrien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous. On est content, ravi d'avoir appris un peu plus sur ton parcours et sur ta démarche.
Merci à vous.
Et à très bientôt.
À bientôt.
Merci Adrien, à bientôt, au revoir.
Ciao.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.